les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans sa spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes une question juridique essentielle. Aujourd'hui, M. Bertrand Dumaret, conseiller d'État, président du think tank Fides, Forum sur les institutions, le droit, l'économie et la société, et chercheur associé au CRDP de l'Université Paris-Nanterre, dessine les contours de la révolution copernicienne du droit public de la régulation économique. Deuxième épisode, la doctrine traditionnelle du service public.
Bonjour chers auditeurs d'Amicus Radio, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui sur le thème donc du droit public de la régulation économique. Nous allons aborder dans cet épisode, toujours sous l'angle de l'introduction du principe de concurrence, la doctrine traditionnelle du service public. En examinant d'abord la théorie et la définition du service public, ensuite la seule limite à la création d'un service public qui est la liberté du commerce et de l'industrie, enfin les principes généraux du service public et pour terminer la distinction entre service public administratif et industriel et commercial. Alors, quelques éléments de théorie et de définition du service public selon la conception française. La définition juridique du service public repose sur la réunion de 3 conditions. En fait, 3 plus 1, on va le voir. Ces conditions sont théorisées dans l'arrêt du Conseil d'État du 28 juin 1963 sur Narcy. D'abord, une finalité qui est un but d'intérêt général. Ensuite, une condition liée au contrôle de la puissance publique, c'est ce qu'on appelle la tutelle. Enfin, troisième condition, des prérogatives de puissance publique, ce sont ces conditions ou ces moyens d'action qui sont exorbitants du droit commun. Cette condition n'est plus qu'une condition nécessaire, mais non suffisante, depuis un arrêt récent du Conseil d'État du 22 février 2007 à PRUI. Mais finalement, ces 3 conditions se résument dans une 4e condition qui les englobe toutes. L'initiative de la puissance publique, qui a le monopole de la création du service public, parce qu'elle a notamment le monopole de l'identification de l'intérêt général. Cette définition est intangible, car elle perdure depuis le début du XXe siècle, avec le traité de droit constitutionnel de 1928 de Léon Duguit, par exemple, jusqu'aux années récentes, avec le rapport Le service public de Renaud Denoy de Saint-Marc de 1996. Vous trouverez des extraits sur le site de l'émission. Mais cette définition, elle est finalement ambiguë, car elle repose sur une tautologie. Est service public ce que l'autorité politique, régulièrement et démocratiquement élue, considère comme tel? Et nous allons voir que cette définition soulève de nombreuses difficultés vis-à-vis du droit de l'Union européenne, qui lui est réaliste, pragmatique, et interroge toujours la raison d'être de telle ou telle intervention publique. Mais voilà ce que ça donnait il y a quelques années.
Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Asnières. Mademoiselle, hep, s'il vous plaît, mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de fermer Toto, non? Pardon, excusez-moi. Non, c'est à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner dans le bureau de poste. Mais pourquoi me répondez, mademoiselle? Oh, vous n'êtes pas tout seul ici, non? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit téléphone au-dessus de mon guichet. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais le 22 à Agnès. Allô? Dites donc, bonjour Georgette. Je t'ai reconnu à la voix. Comment vas-tu? Ici c'est Madeleine. Ça va? Non, mon Dieu, ça va. Où c'est que t'as été dansé samedi? À la salle Wagram? Oh, moi, j'y vais plus. Oh non, c'est ton snob. Et ta sœur? Elle est malade? Oh, ben, tant mieux. Elle est aux assurances sociales? Eh ben, comme ça, elle pourra aller danser toute la semaine. Mais dis donc, pourquoi tu m'as appelé? Oh, c'est bon, moi, qui dis... Oh, ben, t'es folle, c'est toi qui... Ah, oh, peut-être bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez, oulala? Le 22 à Agnières. Allô, tu me passeras le 22 à Agnières, hein? Au revoir, chérie, au revoir. Je t'embrasse, moi, c'est assez, au revoir. Merci, madame.
Alors, Naturellement, ce sketch est à la fois un peu daté et plutôt cruel pour le service public. Mais il met en scène, à travers la demoiselle des PTT, un secteur que nous allons revoir tout au long de notre exposé. Les télécommunications, qui est un secteur emblématique de l'évolution d'un service public en monopole, géré par une direction d'un ministère, jusqu'à devenir une industrie privée régulée. La notion de service public traduit la conception française classique de l'intervention publique et constitue l'un des fondements du droit administratif avec le régime de police administrative. Elle comporte quand même une limite à la création d'un service public, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. C'est un concept ancien dont le contenu a évolué dans la jurisprudence du Conseil d'État. Initialement, celle-ci a fondé ce principe général du droit sur une interprétation constructive de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Le principe est la liberté, je cite cette loi, à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Mais l'exception est la seule limite et, je cite encore, qu'elle sera tenue aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Fin de citation. L'intervention directe de la puissance publique dans la fourniture de biens et de services devait être alors subordonnée à une véritable carence de l'initiative privée, sauf disposition législative. C'est la jurisprudence résultant de l'arrêt du 29 mars 1901 Casanova. Puis avec le développement de l'interventionnisme public entre les deux guerres, cette limite va se relâcher. L'intervention publique n'est plus subordonnée qu'à deux critères cumulatifs, en application d'une décision du 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers du Conseil d'État, à savoir des circonstances particulières de temps et de lieu, on voit que ces circonstances ne sont plus exceptionnelles, et puis d'autre part, un intérêt public, notion qui rejoint par construction la condition d'intérêt général requise pour l'identification du service public. Après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement des services publics, la limite n'est plus que qualitative. Et le Conseil d'État a pu écrire, en retraçant cette évolution, que le concept de liberté du commerce et de l'industrie était devenu élastique. On admet les incursions publiques dans le secteur privé, telles qu'un cabinet dentaire municipal, une station-service municipale, dès lors que ces deux éléments, ces deux services, répondent à un simple besoin de la population. Aujourd'hui, la liberté du commerce et de l'industrie s'articule avec le droit de la concurrence, à travers une décision du 31 mai 2006, ordre des avocats au barreau de Paris du Conseil d'État. La liberté du commerce et de l'industrie est un test effectué au moment de la création du service public et vient limiter cette création, sauf intérêt public, notamment en cas de carence de l'initiative privée. Et au contraire, le droit de la concurrence s'impose au service public pendant l'exploitation du service. Alors, quelques éléments sur les principes généraux de fonctionnement du service public. La qualification de service public emporte alors un régime juridique très spécifique et exhaustif. Il y a d'abord les trois modalités ou principes spécifiques de fonctionnement qu'on appelle souvent les trois lois de Roland, à savoir le principe d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Notons qu'il n'y a pas de principe de gratuité. Et la qualification de service public emporte l'application d'un droit spécifique qui est le droit administratif. Mais la collectivité a une grande liberté de choisir entre les diverses modalités variées de fourniture, rappelées régulièrement depuis entre deux arrêts à 40 ans d'intervalle, l'arrêt du Conseil d'État du 29 avril 1970, Société Unipain, et l'arrêt du 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence. Ces modalités sont très variables. Ça peut être la régie, la fourniture du service public par la collectivité avec ses moyens propres, l'établissement public, qui est un service public personnalisé, avec donc une personnalité morale et des moyens propres et une relative autonomie, voire une gestion qui est déléguée sous la forme d'un contrat de concession ou délégation de services publics à des fournisseurs qui peuvent être publics ou privés. Car il n'y a jamais eu et il n'y a jamais égalité entre services publics d'une part et entreprises publiques d'autre part, ou entre services publics et agents publics. Un dernier mot sur la distinction entre services publics administratifs et industriels et commerciaux. C'est un arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain, plus connue sous le nom d'arrêt Bagdeloka, qui décide plutôt qu'avec un service public, avec des prérogatives de puissance publique, eh bien, il peut être géré par une personne publique, mais avec application du droit privé, lorsqu'existent trois types de caractéristiques, alternativement ou cumulativement, l'objet du service qui est une activité commerciale, le mode de financement par l'impôt, c'est un service administratif, ou par redevance, c'est un service industriel et commercial. Ou, troisièmement, les modalités d'organisation et de gestion avec un régime juridique de droit privé. Cette construction jurisprudentielle va soulever une double difficulté. D'une part, une très grande complexité du régime juridique de droit interne et surtout une grande faiblesse conceptuelle vis-à-vis du droit européen de la concurrence. S'agit-il d'une entreprise intervenant sur un marché ou d'une administration ? Le droit de l'Union européenne ne fait pas de différence entre ces deux sphères, la sphère privée et la sphère publique. D'autre part, certains aspects de droit public confèrent un avantage à l'établissement public vis-à-vis de ses concurrents privés. C'est notamment le cas du statut d'établissement public qui constitue, selon la Cour de justice dans un arrêt du 3 avril 2014, France contre Commission, il s'agissait de la Poste, qui constitue une présomption simple de garantie illimitée qui constitue une aide d'État illégale au regard du traité, car un établissement public ne peut pas faire faillite comme une entreprise. Je vous remercie, chers auditeurs d'Amicus Radio, de votre écoute et vous demande de prendre patience jusqu'à un prochain épisode.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.